franceinter.fr.
Bonjour, c'est Nicolas Demorand.
Du lundi au jeudi à 18h sur France Inter,
le 18-20, c'est votre rendez-vous info de la soirée. 18h-19h, les journaux de la rédaction. 18h15, un jour dans le monde pour toute l'actualité internationale.
Londres, Jérusalem, Washington, Beyrouth.
Et à 19h20, le téléphone sonne.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Merci de prendre mon appel.
Vous avez la parole sur Twitter avec le mot-clé Telson et au 01 45 24 7000.
Le 18-20 de Nicolas Demorand, ce soir sur France Inter, en partenariat avec Le Monde.
France Inter.
On aime.
On aime.
On vous en parle.
Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République.
France Inter présente 1988, le débat Mitterrand-Chirac.
Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte.
Avec Jacques Weber et François Morel, du 2 au 7 mai au Théâtre de l'Atelier.
Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
1988, le débat Mitterrand-Chirac. Au Théâtre de l'Atelier, un spectacle France Inter.
Et tout de suite sur France Inter, affaires sensibles avec Fabrice Drouel. Et on est le 1er mai alors, 1er mai quoi.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, une date, le 1er mai. Le printemps, bientôt l'été, les brins nuguets, la grasse matinée, mais aussi et surtout, la fête du travail, chômée et payée depuis le maréchal Pétain. Fêter le travail, quelle drôle d'idée, alors que la France compte plus de 3 millions de chômeurs, que les plans sociaux se suivent et se ressemblent, et que les burn-out sont de plus en plus fréquents. Mais sait-on que le 1er mai 1886, ce jour-là, des policiers américains ont tué des travailleurs qui manifestaient pour la journée de 8 heures, consacrant ainsi cette date comme jour des luttes ouvrières. Sait-on que ces manifestants étaient anarchistes? D'ailleurs, sait-on ce qu'est vraiment l'anarchisme? Nébuleuse de pensée en perpétuelle évolution, cette doctrine est fondée sur le refus de toute autorité hiérarchique, et en particulier celle de l'État, du capital et de la religion. Protéiforme et méconnue, ce mouvement inquiète, d'autant plus qu'une légende noire liée à des actes terroristes est venue entacher sa réputation au XIXe siècle. Pourtant, loin d'être confuse et intrinsèquement violente, la pensée anarchiste est au fondement de bien des avancées sociales en France et dans le monde. En cette fête du travail, journée des revendications des travailleurs, nous vous proposons donc une plongée rouge et noire au cœur des luttes menées par le courant libertaire, ses modes d'action, ses évolutions, ses victoires et ses peines, incarnées par cette journée symbolique et historique du 1er mai. Notre invité après le récit, le producteur et réalisateur Tancrède Ramemet, auteur du documentaire « Ni Dieu n'est maître », une histoire de l'anarchisme, diffusée sur Arte le 11 avril dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jeanne Maillard avec l'appui des documentalistes de Radio France, attachée de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Le 1er mai 2016, plusieurs dizaines de milliers de personnes défilent ce dimanche à Paris et dans toute la France pour réclamer le retrait du projet de la loi travail. Les manifestants, sandwich merguez à la main, chantent « Le monde ou rien », l'un des hymnes du mouvement social d'alors. Lycéens, syndicalistes et travailleurs avancent main dans la main. Soudain, en marge du cortège, des débordements éclatent. Les forces de police affrontent des hommes et des femmes vêtus de noir, le visage masqué. Les premiers sont armés de matraques et de flashballs, les autres de canettes, de bouteilles en verre, de pavés. 18 personnes sont interpellées. Le soir, place de la République, l'habituel rassemblement du mouvement citoyen Nuit Debout est interrompu après des incidents impliquant des casseurs, comme les appellent les autorités et les médias. Voilà comment Thomas Legrand définit leur pensée politique au micro de France Inter.
Eh bien, ils s'inscrivent dans une lignée anarchiste plus que dans quelques variantes extrémistes du communisme. La Commune de Paris les inspire plus que mai 68. Ces jeunes gens ont aussi leur martyr, Rémi Fraisse, tué par la police à Sivens. Ils sont souvent issus de la classe moyenne et supérieure blanche, sont à la fois écologistes ultra et rétifs à toute forme d'autorité. Ils n'aspirent pas à une révolution politique, mais rêvent d'une révolution horizontale. Chacun, avec ses réseaux, ses voisins, ses amis, doit tisser une grande toile humaine pour vivre autrement, sans lien avec aucune autorité. D'ailleurs, les violences contre la police sont l'expression la plus radicale de cette idée selon laquelle, pour habiter le monde, il faut habiter le monde autrement. Eh bien, il faut abattre toute représentation de l'autorité verticale de l'État.
« 130 ans avant Nuit debout, le 1er mai 1886, d'autres manifestations ont dégénéré en affrontements, notamment à Chicago. Les syndicats américains et le journal anarchiste The Alarm appellent à la grève. 340 000 travailleurs se réunissent au Haymarket Square en faveur de la journée de 8 heures, paralysant 12 000 usines dans le pays. La ville, foyer d'une immigration pauvre et lassée par la corruption des élites, constitue le cœur de l'anarchisme aux États-Unis. » La grève se poursuit les jours suivants, alors qu'une violente répression policière aggrave les tensions. Le 4 mai, pendant la manifestation, une bombe explose. Les policiers sortent leurs fusils et des rixes éclatent, tuant 12 personnes. Le coupable est tout trouvé, les anarchistes. À l'issue d'un procès expéditif, 4 d'entre eux sont pendus avant d'être officiellement innocentés. Dans le monde socialiste, ces morts deviennent des martyrs. 3 ans après les événements de Haymarket Square de Chicago en 1889, le congrès de la 2e internationale réuni à Paris décide de faire du 1er mai une journée de lutte pour la réduction de la journée de travail à 8 heures. Le 1er mai, dès lors, se teinte de rouge et de noir les couleurs du socialisme et de l'anarchisme. De Chicago à Nuit debout, retour donc sur une histoire mouvementée, celle de l'anarchisme et de l'une de ses dates clés, le 1er mai. Des mots, des actes et parfois des armes, pour un récit qui nous emmène beaucoup plus loin dans le temps que d'habitude, disons qu'une fois n'est pas coutume. La révolution industrielle qui bouleverse le 19e siècle tient à l'écart un large pan de la population qui ne tire pas à profit des progrès en cours. On l'appelle le prolétariat. Hommes, femmes et enfants travaillent entre 12 et 15 heures par jour pour un salaire de misère. L'alcoolisme, la malnutrition, les accidents du travail et le chômage font des ravages chez les ouvriers dont l'espérance de vie dépasse à peine 30 ans. En 1864, une association internationale des travailleurs est créée pour fournir un cadre au mouvement ouvrier européen. Mais la première internationale est divisée. D'un côté, Karl Marx, de l'autre, Mikhail Bakounine. Le premier défenseur d'une dictature du prolétariat veut utiliser l'État comme structure autoritaire pour installer le communisme par le haut. Le second, lui, est anti-autoritaire. Comme le père de l'anarchisme, Joseph Proudhon, il veut détruire l'outil de domination que constitue l'État pour établir une société harmonieuse et autogérée. En 1871, les anarchistes sont aux premières loges de la Commune de Paris. Pendant 2 mois, des femmes et des hommes, travailleurs, artistes, intellectuels, organisent de façon autonome la vie politique et sociale de la capitale. Cette expérience d'autogestion aboutit, entre autres, au droit de vote des femmes, à la laïcisation de l'enseignement, à la révocabilité des élus et à l'union libre, des idées anarchistes. Mais l'expérience de la Commune, qui s'est exportée à Marseille, Limoges ou Toulouse, prend fin avec la Semaine sanglante. Entre le 21 et le 28 mai 1871, plus de 3000 personnes meurent chaque jour sous les fusils de la République. Affaiblis par la répression de la Commune de Paris, les anarchistes organisent leur lutte au sein d'une fédération anti-autoritaire qui défend la grève comme moyen d'action. Le 1er mai devient alors un jour symbolique pour l'ensemble des travailleurs, un jour de lutte. Mais l'édition 1891 tourne au cauchemar. À Fourmies, dans le nord de la France, le défilé dégénère après que les gendarmes ont arrêté les manifestants. France 3 a reconstitué la scène dans un documentaire diffusé en 1991.
La foule est nombreuse rue des Ailiers. Le calme règne. Un groupe composé essentiellement de jeunes femmes arrive sur la place. Une jeune fille, Maria Blondeau, le nez fleuri en main, dirige joyeusement le cortège. Soudain, à 18h15, un groupe de 200 manifestants, dont certains sont armés de bâtons, investit la place. Gilotto, drapeau tricolore en main, semble les diriger. Les deux groupes fusionnent. Il se retrouve face à un mince cordon de 34 soldats.
Nous, on vous aime bien. Laissez-nous passer. On veut juste demander la libération de nos hommes.
Toi, je te connais. Tu es d'ici. Tu vas quand même pas tirer sur tes frères.
On veut nos hommes.
Je vous préviens que les armes sont chargées. Si ça continue, je vais faire tirer.
Il fait tirer en l'air par quelques soldats. Nouvelle poussée violente.
Baïonnette, en avant! Baïonnette, en avant!
Un tel ordre ne trouble pas les manifestants qui bousculent violemment la rangée de soldats.
Ce 1er mai 1891, 10 jeunes gens sont tués par les fusils des gendarmes, dont 2 enfants et une ouvrière, Marie Blondeau. Le 1er mai s'enracine plus profondément dans la tradition des luttes ouvrières. Désormais, les manifestants épinglent à leur poitrine une branche d'églantine rouge en souvenir du sang des victimes et du bouquet que portait dans ses bras la jeune Marie Blondeau. À cet épisode sanglant de répression policière s'ajoute l'arrestation et la condamnation de 3 anarchistes à Clichy ce même 1er mai 1891. Face à l'arbitraire de la justice, un homme, ouvrier et militant anarchiste, fait alors un choix radical, celui du terrorisme. Et cet homme, c'est Ravachol. En 1892, Ravachol cible 2 hommes, 2 représentants de l'État, dans l'affaire de Clichy. La dynamite qui leur a destiné blesse une dizaine de personnes, mais il n'y a aucun mort. Arrêté et condamné à la peine capitale, Ravachol accueille les verdicts en criant « Vive l'anarchie !» Sa mort amplifie l'écho de la pensée anarchiste, car loin d'être réprouvé par tous, il devient un héros populaire et révolutionnaire, bien plus qu'un criminel. On célèbre son courage et des chansons lui sont dédiées.
Dansons la Ravachol, vive le son, vive le son. Dansons la Ravachol, vive le son de l'explosion.
Il y a les magistrats vendus,
il y a les magistrats vendus.
Il y a les financiers ventrus,
il y a les financiers ventrus.
Il y a les argousins, mais pour tous ces coquins, il y a de la dynamite,
vive le son, vive le son.
Il y a de la dynamite, vive le son, l'explosion.
Dansons la Ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la Ravachole, vive le son, l'explosion.
Ravachol fonde ainsi la légende noire de l'anarchiste poseur de bombes, celle qui aujourd'hui encore, pour beaucoup, incarne cette philosophie. Il ouvre surtout une ère nouvelle, celle de la propagande par le fait, qui vise à déstabiliser le pouvoir en attaquant physiquement ceux qui le détiennent. Les attentats anarchistes se succèdent à la fin du siècle. En 1894, un jeune Italien, Sante Caserio, poignarde mortellement le président de la République française, Sadi Carnot. Coup de tonnerre. L'opinion publique, la presse et l'État prennent peur. Des mesures d'exception sont votées dans l'urgence. Les fameuses lois scélérates. Les individus soupçonnés de sympathie anarchiste, même lorsqu'elles ne sont pas militantes, sont fichés, voire arrêtés. La presse d'extrême-gauche est censurée. Pour le gouvernement, il s'agit de frapper la gauche socialiste révolutionnaire dans son ensemble. Jean Jaurès et Léon Blum dénoncent les lois liberticides et critiquent ce double discours qui laisse le champ libre à l'ultranationalisme et à l'antisémitisme. Au tournant du siècle, le terrorisme, qui ne fait pas avancer la cause des travailleurs, est profondément remis en cause par les anarchistes eux-mêmes. C'est la fin du temps des bombes. La grève générale, prônée par Bakounine, devient le fer de lance d'un courant nouveau, le syndicalisme révolutionnaire, qu'on appellera plus tard anarcho-syndicalisme. Les historiens Jean-Yves Mollier et Hans Stenner en rappellent le principe dans le documentaire de Tancrède Ramonet, diffusé sur Arte le 11 avril dernier.
L'idée peut paraître simpliste vue d'aujourd'hui, mais elle est en même temps révolutionnaire. Si toutes les usines s'arrêtent de travailler, comment les capitalistes pourront-ils continuer à toucher leurs capitaux, à toucher leurs dividendes, puisqu'il n'y aura plus rien?
Et si tout le monde en même temps fait la grève, ça suppose pour certains l'économie de l'insurrection. La société s'écroulera d'elle-même sans qu'il soit besoin d'une violence extrême, puisque la bourgeoisie ne pourra pas faire front. Ce sera déjà la société sans État, puisque l'État n'aura plus de raison d'être.
C'est pas l'idée, au fond, de tuer ou de mettre en prison les bourgeois, les capitalistes. C'est les tuer dans leur essence de capitalistes. S'il n'y a plus de capitaux produits, il n'y a plus de capitalistes.
En 1895, les anarchistes comme Émile Pouget sont parmi les pères fondateurs de la CGT, la Confédération Générale du Travail. Pour les syndicalistes révolutionnaires, le syndicat répond à une double exigence. L'amélioration immédiate du quotidien des travailleurs et la mise en place d'une société égalitaire et autogérée, indépendante de l'État et du capitalisme. Les bourses du travail de l'anarchiste Fernand Pelloutier, foyer d'éducation populaire autogérée, constituent des modèles embryonnaires de la société telle que l'imaginent les anarcho-syndicalistes. Leur arme, la grève, a fini par porter ses fruits. Le 1er mai 1906, les syndicalistes de la CGT, où les anarchistes sont majoritaires, appellent à la grève générale. Comme chaque 1er mai depuis 1889, les travailleurs réclament la journée de travail de 8 heures. Cette année-là, les revendications se font d'autant plus ardentes que 1000 personnes viennent de mourir, coincées dans une mine à Courrières, dans le nord de la France. La tension est ingérable, tant la colère des travailleurs est vive. La grève, acharnée, dure 5 semaines, comme l'explique un documentaire de Pascal Goethals, diffusé sur France 3 en 2006.
Il y a une volonté de crier une colère, un sentiment d'injustice, un sentiment d'humiliation, et aussitôt, la grève devient sauvage.
Plusieurs milliers de manifestants dépavent les rues. Ils tendent des fils de fer et des chaînes pour empêcher le passage des chevaux. Ils envahissent la voie ferrée. Ils lancent des pierres sur les gendarmes en criant « Vive la grève! Vive la révolution !» À 4h15, des grévistes forcent les barrages qui protègent la maison du directeur des mines de Lens. Les dragons sont criblés de pierres. Ils chargent. Le marché de Liévin est pillé. De terribles bagarres ont eu lieu à Aveluy et Denain, où le maire est frappé.
Le 1er mai qui suit la catastrophe, 45 000 hommes de troupes sont envoyés à Paris tant le gouvernement craint l'insurrection. Au terme d'affrontements meurtriers, place de la République, le gouvernement lâche un jour de repos hebdomadaire. Pour les syndicats et les anarchistes, malgré le sang versé, ce 1er mai 1906 est une victoire, celle de leur arme, la grève générale. La popularité des anarcho-syndicalistes est alors à son apogée. Une statue de Joseph Proudhon, le père de l'anarchisme, est même inaugurée en présence du président de la République, Armand Falière. Partout dans le monde, le syndicalisme révolutionnaire convainc. La CNT en Espagne, la FORA en Argentine, les Industrial Workers of the World aux États-Unis, autant de structures qui visent l'abolition de la société capitaliste et réunissent des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs dans leur lutte. Alors que le syndicalisme prouve son efficacité, une partie des anarchistes se tourne vers un nouveau mode d'action, l'individualisme. Des libertaires se réunissent dans des communautés autogérées où ils expérimentent des pratiques nouvelles. En Palestine, au Brésil, en Australie, dans les campagnes françaises, on rompt de façon concrète avec les principes autoritaires de la société. L'anarchisme semble apaisé, loin de ces vieux démons terroristes. Inquiets de la puissance effective des mouvements ouvriers et des idées nouvelles qui se diffusent, les gouvernements réagissent. En 1909, les espoirs libertaires sont brisés. Francisco Ferrer, pédagogue, anarchiste et fondateur de l'école moderne en Espagne, est accusé, à tort, d'avoir fomenté une grève générale à Barcelone. Il est condamné à mort. À Paris, c'est l'émeute, comme rarement auparavant. Car les anarchistes reprennent la voie de la violence. En Argentine, en Espagne, en Ukraine et en France, le braquage devient une technique révolutionnaire systématique. La traque de la bande à Bono, que la presse appelle les bandits tragiques, passionne les foules, mais discrédite un mouvement anarchiste que cette brutalité indiscriminée divise. Ce qui divise surtout les anarchistes en 1914, c'est la guerre. Alors qu'une partie d'entre eux se fait anarcho-patriote, d'autres appellent une ultime grève générale le pacifisme. La fin de la Première Guerre mondiale marque l'avènement de la journée de 8 heures, proclamée par la loi du 23 avril 1919 et confirmée par le traité de Versailles. Les travailleurs qui défilent chaque 1er mai depuis maintenant 30 ans ont été écoutés. Désormais, les manifestations porteront d'autres revendications, telles que les congés payés. Tous les espoirs semblent permis, d'autant plus que des révolutions comme celle qui a eu lieu en Russie en 1917 donnent le pouvoir au peuple. C'est ce que pensent des anarchistes comme Kropotkine et Malatesta qui regardent l'insurrection d'un bon œil. Et rapidement, les bolcheviks montrent leur vrai visage, autoritaire, arbitraire. Le 1er mai 1920, journée des luttes ouvrières depuis 1889, est proclamée fête du travail. À l'entrée d'un camp soviétique où des anarchistes sont déportés avec d'autres opposants, on peut lire « Par le travail, la liberté ». Alors qu'ils ont joué un rôle majeur dans la révolution, les anarchistes et leurs idées n'ont pas leur place en URSS. En 1936, de nouveau, les anarchistes pensent toucher leur rêve du doigt. En réaction au coup d'état de Franco en Espagne, ils créent des bataillons pour défendre la jeune République. Soutenus par des combattants du monde entier, les brigades internationales, ils instaurent une société libertaire dans toute la Catalogne. Agriculture collective, autogestion des entreprises, campagne d'alphabétisation. Dans nombre de villages, les anarchistes vont même supprimer l'argent, oui. Des paysans qui ont connu la révolution sociale espagnole se souviennent dans un documentaire de Juan Gamero, diffusé sur Arte en 1997.
Ici, l'argent a disparu. On a fait ce qu'on a appelé le tas de Kropotkine. On achetait les aliments avec des bons et des cartes de rationnement qu'on avait fait. On ne payait ni la lumière, ni l'eau, ni l'école, ni rien. Tout était gratuit.
Aucun égoïsme, ça n'existait pas. Comment aurait-il pu y en avoir? Quand il n'y a pas d'argent, il ne peut y avoir d'égoïsme.
On le dit aujourd'hui et les gens ne le comprennent pas. Mais non, ça se passait bien.
Le fait d'avoir collectivisé, l'immense majorité du village l'a bien accepté. Et tous n'étaient pas syndicalistes ou anarchistes.
La société à laquelle les anarchistes s'accrochent depuis plus de 60 ans fonctionne effectivement. Et ils en ont désormais la preuve.
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignets et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes.
Alors que l'anarchisme triomphe en Espagne, la France écoute les revendications de ses travailleurs. La manifestation du 1er mai 1936, deux jours avant l'arrivée au pouvoir du Front Populaire, aboutit aux accords de Matignon qui légalisent la semaine de 40 heures, les congés payés ainsi que les conventions collectives. Mais les fascismes menaçants rôdent. Les troupes franquistes, appuyées par Hitler et Mussolini, finissent par écraser la révolution libertaire espagnole. En Italie, en Allemagne, en France, les anarchistes sont attaqués, parfois même sur leur propre terrain. L'extrême droite récupère certains de leurs symboles pour attirer les ouvriers. L'Action française de Maurras crée le cercle Proudhon, tandis que Mussolini, qui a côtoyé l'anarchiste italien Leda Raffanel et dans sa jeunesse, reprend la couleur phare des anars, le noir. Comme Lénine, Hitler décide de faire du 1er mai une journée chômée, payée dès 1933. Vichy limite sous l'occupation. En 1941, le 1er mai devient la fête du travail, de la concorde nationale et de la jeunesse. Les actualités de Vichy diffusent alors ce reportage.
Paris. Ce 1er du mois de mai n'est pas seulement la journée du muguet, c'est surtout la fête de l'union et du travail. Dès le matin, 50 000 enfants des écoles ont vendu aux Parisiens plus de 3 millions d'insignes au profit du Secours National Entraide du Maréchal. C'est également aujourd'hui la fête des jeunes et l'Entraide a organisé à cette occasion de nombreux spectacles. Au Palais des Sports, Bordas ouvre le spectacle. ...50 séances similaires apportant distraction et joyeux réconfort à plus de 300 000 enfants des familles les plus éprouvées par les événements ont été offertes gratuitement dans Paris et sa banlieue par le maréchal à ces jeunes qui sont toujours présents dans son cœur.
Puis la récupération symbolique se mue en persécution et en extermination. Les anarchistes allemands, mais aussi les Espagnols réfugiés en France, sont déportés à Mauthausen, Dachau et Buchenwald. Nombre d'anarchistes français, qu'ils soient communistes, libertaires, anarcho-syndicalistes ou individualistes, désertent et résistent, souvent de façon individuelle. Après la guerre, des groupes se forment, comme la Fédération anarchiste fondée en 1946. Mais les anars ne retrouveront jamais l'importance qu'ils avaient avant le conflit. À la Libération, le 1er mai reste un jour chômé et payé. Officiellement, il n'est pas une fête du travail, même si l'appellation née sous Vichy persiste. Dans les faits, le 1er mai est encore une journée de revendications syndicales et de manifestations. Mais en 1954, les cortèges du 1er mai sont interdits après une manifestation en faveur de l'indépendance de l'Algérie qui se solde par la mort de 7 manifestants. Il faut attendre 15 ans pour que le monde du travail défile à nouveau à l'initiative de la CGT et du Parti communiste. Le 1er mai 1968, 100 000 personnes rejoignent la Bastille. Les anarchistes brandissent le drapeau noir. Deux jours plus tard, ils sont aux avant-postes de la révolte étudiante qui débute. Le 6 mai 1968, Jean-Claude Bourret décrit en direct les affrontements entre manifestants et CRS au micro de France Inter.
Eh bien écoutez, Jean-Pierre Elkabbach, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain et trois fois les manifestants ont chargé les CRS, trois fois les CRS sont reculés. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. C'est extraordinaire ce spectacle. Et à deux pas de là, les manifestants refluent tandis que autour de moi les pierres tombent de tous les côtés. Vous entendez les CRS qui crient pour s'aider mutuellement. Mais vraiment, c'est une scène d'émeute extraordinaire.
À quel endroit du boulevard Saint-Germain vous trouvez-vous ?
Eh bien, je me trouve devant le Mabillon exactement, mais je fais très attention, excusez-moi si je suis un petit peu essoufflé parce qu'on est obligé de courir, de faire attention aux pierres qui tombent de tous les côtés. Je vois là-bas les CRS qui sont parvenus au contact. Et il y a des coups très très sévères qui sont déchargés. Et une nouvelle fois, les voitures font les frais de l'opération, car les voitures ont été mises au travers de la roue. Voilà une pierre qui tombe juste à côté de moi. C'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Une scène d'une violence inouïe.
Le 13 mai, l'émeute se mue en grève générale. Pendant plusieurs semaines, la France est paralysée, car la moitié des salariés français participent au mouvement. Mais les événements de mai 68 ne suffisent pas à ressouder un mouvement anarchiste divisé. Déjà, depuis une dizaine d'années, certains militants, notamment parmi les jeunes, remettent en cause la rigidité idéologique et l'anti-marxisme de l'anarchisme traditionnel incarné par la Fédération anarchiste. Ces nouveaux libertaires, ouverts à d'autres courants, participent activement au mouvement de mai 68 durant lesquels ressurgissent des thèmes chers aux anarchistes. La démocratie directe, l'autogestion, la liberté sexuelle. Les décennies suivantes voient se développer d'autres mouvements libertaires dont les revendications et les luttes se superposent parfois. Le mouvement autonome, le municipalisme libertaire, l'anarcha-féminisme, l'altermondialisme, l'anarchisme, qui n'est pas un dogme figé, ne cesse d'intégrer des idées nouvelles et de se ramifier, comme explique un militant de l'organisation alternative libertaire au micro de Radio Campus Bruxelles.
Il faut être honnête, les mouvements révolutionnaires, tous, que ce soit l'anarchisme ou le communisme, n'importe quel autre mouvement, n'étaient pas du tout égalitaires au 19e, même au début du 20e siècle. C'était des mouvements très masculins, très blancs, bref, pas du tout, qui n'avaient pas encore du tout brisé en fait l'hégémonie masculine. Enfin, je ne prétends pas avoir la meilleure vision ou la vision juste là-dessus, mais ce qui est clair, c'est que il y a eu des changements très très fort. Maintenant, vous avez des groupes femmes qui sont très très actifs dans les milieux anarchistes. C'est vrai qu'on a l'avantage avec l'anarchie de pouvoir sans cesse modifier en fait notre corpus, nos théories. Et donc, on peut intégrer tout un tas de choses. Les combats, notamment féministes, les combats antiracistes, les combats antifascistes. L'anarchie n'a pas une seule facette.
Désormais, libertaire ne désigne plus seulement l'anarchisme, mais plus généralement une sensibilité disséminée, exprimée par les tentatives militantes anti-autoritaires, des lieux alternatifs et des résistances individuelles. Tandis que l'anarchisme historique évolue, que les syndicats perdent en puissance et se divisent, d'autres célébrations s'invitent, le 1er mai en marge des défilés des travailleurs. En 1988, entre les deux tours de la présidentielle, Jean-Marie Le Pen organise pour la première fois ce qui deviendra un rassemblement régulier du Front National. Avec ses fidèles, il rend hommage à Jeanne d'Arc, à Paris, et tacle les syndicalistes, comme le rapportent les journalistes de Soir 3.
Jean-Marie Le Pen s'en est pris vivement aux organisations syndicales, qui croyaient selon lui pouvoir s'accaparer le 1er mai.
Certains prébendiers syndicaux, syndicalistes et syndicratiques ont prétendu contre-manifester contre notre défilé pacifique, alors qu'eux ne sont les représentants que de la nomenclatura des profiteurs et des gréviculteurs.
Méprisant dans l'oubli toute l'histoire des conquêtes syndicales, le leader du Front National préfère cette image des gueules noires. Ces mineurs dont le métier disparaît peu à peu. Un symbole de la volonté de Jean-Marie Le Pen de récupérer les exclus de l'évolution économique.
Le 1er mai 1995 se teinte de noir et de rouge. Non pas ceux des drapeaux anarcho-syndicalistes, mais le noir du deuil et le rouge de la honte. Trois hommes qui participent au défilé organisé par le FN poussent dans la scène un ressortissant marocain de 20 ans, Brahim Bouaram. Le jeune homme meurt noyé. La même année, la CNT, la Fédération anarcho-syndicale fondée en 1946, participe pour la première fois au défilé du 1er mai. Désormais, les cortèges se servent du mégaphone et des combats radicalement opposés, lutte contre le pouvoir et le capitalisme avec les anars, lutte contre le racisme et l'extrême droite avec les antifaf, lutte contre les droits des travailleurs avec les syndicats traditionnels, défense de l'identité française et hommage à Jeanne d'Arc avec le FN. Il y en a pour tous les goûts. Le 1er mai change de ton en fonction des aléas de l'actualité. Lors de l'édition 2012, entre les deux tours de la présidentielle, Nicolas Sarkozy organise un rassemblement pour fêter ce qu'il appelle le vrai travail. Le travail, dans son esprit, de ceux qui ne veulent plus que quelqu'un qui ne travaille pas puisse gagner plus que quelqu'un qui travaille. Un manque de respect pour les syndicats qui nourrit un climat social déjà tendu, dénonce le PS. Le 1er mai, loin de réunir les Français autour de revendications sociales, comme ces instigateurs libertaires l'ont voulu au 19e siècle, devient le symbole de la récupération politique parfois et des divisions du pays souvent. Seuls des malaises nationaux, comme la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, semblent pouvoir redonner à cette journée historique un sens, partagé par une majorité. Le 1er mai 2002, ce sont en effet 1 300 000 personnes qui défilent dans la rue, main dans la main, pour dire non au Front National. Alors que le 1er mai, jour du muguet et des plaisirs printaniers, semble parfois se vider de son sens historique, il nous a semblé nécessaire de rappeler que la fête du travail n'en est pas officiellement une, sinon pour Vichy. Non, le 1er mai, c'est l'épisode Marie Blondeau, cette ouvrière tuée par des gendarmes français alors qu'elle manifestait pour ses droits. C'est le succès de la grève générale, l'arme des travailleurs en 1906, puis en 1936. Ce sont des combats et des victoires, l'espoir et la lutte, et en premier lieu, celle que menèrent les anarchistes dès le 19e siècle, la lutte pour la liberté, la lutte pour l'égalité. Car au-delà du recours à la violence et au terrorisme, inhérent à l'histoire du mouvement, les anarchistes ont exercé une influence réelle sur la société et sur ses évolutions. Émancipation de la femme, pédagogie alternative, écologie, entre autres. Les résultats du premier tour de la présidentielle, il y a une semaine, montrent que ces idées-là ont encore et décidément beaucoup de chemin à faire pour trouver un écho favorable auprès des Français, vu le sort qu'ils ont réservé aux candidats qui en étaient les plus porteurs.
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le 1er mai, l'histoire de l'anarchisme avec notre invité, le producteur et réalisateur Tancrède Rabonnet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur du documentaire intitulé « Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme » diffusé sur Arte le 11 avril dernier. Donc une plongée, une immersion dans l'histoire de ce mouvement. Alors, parfois on dit c'est l'anarchisme pour dire c'est la pagaille. Bon, on s'aperçoit que c'est tout sauf ça, ça peut être un petit peu ça, mais c'est surtout autre chose. Hein, c'est une histoire qui porte déjà un nom, le nom de Proudhon. Je voudrais qu'on s'arrête sur Proudhon, décrit comme le père de l'anarchisme.
Qui était-il? Quel était son discours?
Alors, Proudhon, c'est un ouvrier typographe qui est né au début du 19e siècle. Et donc, il a la particularité d'être un ouvrier, c'est-à-dire que c'est un des grands penseurs du socialisme qui vient de la classe ouvrière. Et il vit à Besançon, enfin, il est né à Besançon. Et très tôt, il se construit, il s'intéresse à tout. C'est vraiment un esprit qui est curieux de tout. Il écrit toute sa vie sur à peu près tout. Alors, Proudhon, il n'a pas une pensée qui est très dogmatique et très cohérente. Hein. Il a vraiment une sorte de un peu. C'est un homme un peu comme un homme de la Renaissance. Mmh. C'est vraiment un fils des Lumières. Il s'intéresse à toutes les questions. Et ce qu'il fait en 1840 dans son premier grand essai qui s'appelle « Qu'est-ce que la propriété ?» et dont on retient la phrase « La propriété, c'est le vol », c'est qu'il est le premier à retourner un terme qui d'habitude était utilisé pour disqualifier les gens, c'est-à-dire de traiter les gens d'anarchistes. Ça s'utilisait beaucoup pendant la Révolution française, c'était ceux qui étaient contre la République, qui étaient pour le désordre et le chaos. Eh ben, il est le premier à se réclamer en fait de ce terme. Ce que je fais un petit raccourci rapide dans l'histoire, mais presque de la même façon que vont le faire les punks, punk étant une insulte, et les punks vont reprendre cette insulte pour dire, pour s'affirmer. Eh bien, Proudhon, finalement, retourne et dit, je ne suis ni monarchiste, ni républicain, ni démocrate, je suis anarchiste, et il énonce ce qui va être presque cette phrase paradoxale qui constitue l'anarchie, c'est quoique très ami de l'ordre, je suis dans toute la force du terme anarchiste.
Et dans votre documentaire, l'historien Normand Baillargeon cite cette phrase d'un anarchiste américain. Il dit « La liberté sans l'égalité, c'est la jungle. L'égalité sans la liberté, c'est la prison. » Donc cette double aspiration à la liberté et à l'égalité, qui peuvent être deux forces qui se télescopent, mais qui s'assemblent aussi. C'est une définition possible de l'anarchisme ?
Oui, l'anarchisme, justement, c'est essayer de trouver l'équilibre ou d'amener, je vais le dire mieux, c'est moins l'équilibre que d'amener à son maximum la liberté et l'égalité, en disant que la totale liberté justifie l'égalité, non seulement l'égalité de tous et de chacun, et de toutes et de chacune, ou de chacun, et le maximum de liberté. Bakounine a cette phrase qui va contre ce qui se dit à l'époque, c'est-à-dire que la liberté d'autrui, loin de nuire à ma liberté, au contraire, étend la mienne à l'infini. C'est-à-dire que c'est par l'adjonction des libertés que notre liberté s'accroît. Bien, il en est de même pour l'égalité. C'est plus on va être égaux, plus tout le monde va avoir non seulement les mêmes chances au départ, mais concrètement le même accès aux richesses, au savoir, plus tout le monde va être s'enrichir intellectuellement, avoir une vie meilleure, etc. Et que l'un et l'autre se supposent.
Alors, pour les anarchistes, dès le 19e siècle, il est impensable de fêter le travail le 1er mai. Hein. Quel est leur rapport au travail? L'anarchisme reconnaît-il une valeur, la fameuse valeur travail?
Non, alors la valeur travail, il faut savoir d'abord, je dis cette chose-là, puisque j'ai pas mal travaillé dessus, la notion même de valeur qu'utilisait beaucoup, par exemple, Manuel Valls, contribue à jeter de la confusion. Disons, quand on est de gauche ou d'extrême gauche, quand on est anarchiste, mais plus simplement même quand on est républicain, on n'a pas des valeurs, on a des principes. Les valeurs, ça se dévalue. Des principes, c'est quelque chose qui est ferme et à partir duquel on part. Par exemple, l'antiracisme n'est pas une valeur, c'est un principe. Donc il n'y a pas de valeur au travail, c'est vraiment une sorte de discours pétainiste qui est tenu aujourd'hui, ripolliné, mais c'est un discours pétainiste. Les anarchistes ont, par rapport au travail, disons, le grand rapport à la fin du 19e siècle, la manière de le voir qu'ont les socialistes, c'est-à-dire une idée que l'homme est à la fois aliéné dans son travail, mais s'il n'était pas aliéné par l'exploitation, ce travail contribue à son émancipation.
Alors, on va parler des femmes dans ce grand mouvement anarchiste au 19e siècle. Et pour le faire, on va écouter tout simplement, avec votre autorisation, un extrait de votre documentaire.
When the movement matures, you find that they are trade unions.
Au fur et à mesure de l'implantation des syndicats anarchistes, ceux-ci se dotaient toujours de sections féminines.
Ce ne sont pas des ghettos, car ces sections féminines étaient vraiment aux avant-postes de la Révolution. Et je crois que c'est important de comprendre ça, car les femmes jouaient alors un rôle de pionnier. Et ces sections féminines devenaient aussitôt, en quelque sorte, des avant-gardes révolutionnaires.
Mais oui, parce que les anarchistes se sont toujours intéressés à des questions telles que la place des femmes, celle des étrangers, le respect de la nature. Il y a des résonances hein, avec aujourd'hui. Pourquoi l'histoire n'a pas retenu ses préoccupations pour lui préférer la violence, de la propagande par le fait, on l'a expliqué pendant le récit, en gros le terrorisme, ou de la bande à Bono, par exemple.
Bon, très concrètement, le désir de faire une caricature est une manière de disqualifier. Faire une caricature d'un mouvement, c'est une manière de le disqualifier. Vous parliez au début du documentaire de l'utilisation du terme de casseur pour ce que fait le cortège de tête, par exemple, qui est au contraire une action politique consciente qui consiste à détruire les symboles du capitalisme. Bon, ben de la même façon, à la fin du 19e siècle, on va caricaturer le mouvement libertaire pour le disqualifier. Donc on va dire que c'est de la terreur, on va faire du fait divers pour, comme disait Bourdieu, faire diversion, pour faire occulter le fait qu'à ce moment-là, au contraire, les anarchistes massivement s'organisent dans des syndicats, dans les bourses du travail, que hommes et femmes travaillent ensemble, discutent de toutes ces questions. Et donc, comme le disait l'extrait, c'est une des particularités du mouvement anarchiste. Il ne faut pas non plus l'exagérer, mais il a des grandes figures féminines que sont... alors, on connaît Louise Michel en France. Il y a Emma Goldman aux États-Unis, qui est la femme la plus dangereuse d'Amérique à cette époque. Kano Sugako au Japon, Lucy Parsons, qui est vraiment une des premières militantes de la cause noire, donc qui intègre aussi toute la question, les luttes anticoloniales ou décoloniales très tôt. Et pourquoi ? C'est parce que l'anarchisme n'est pas maintenu dans un dogme, c'est-à-dire qu'il n'est pas tenu par la seule lutte des classes qui est, disons, dans la pensée marxiste, mais il a conscience aussi de toutes les autres formes de domination. Et c'est Murray Bookchin, par exemple, qui est un anarchiste américain, passé par le trotskisme, devenu anarchiste, qui va être l'inspirateur du mouvement hippie, qui va rethéoriser l'écologie, ce qu'on appelle la lutte des races, ou disons les luttes antiracistes ou contre les dominations, toutes les autres formes de domination. D'ailleurs, Murray Bookchin le fait. Et donc, les anarchistes montrent que derrière la lutte des classes qui est au cœur du système capitaliste, d'autres luttes, d'autres formes de domination plus sournoises existent, le patriarcat au sein de la famille, même l'exploitation de la nature ou des animaux.
Alors, tout ce que vous dites nous amène vers ce que j'appellerais la confrontation au réel, hein, parce que le réel, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'est pas structuré comme l'a pensé anarchiste. Donc, quelle est la motivation de ces gens ? Parce que vouloir construire une autre société, il n'y a rien de plus honorable. Mais comment la construire dans une société qui a déjà des bases qui l'empêchent de construire cela ? Quelle est leur motivation ? Est-ce qu'elle est purement intellectuelle, purement philosophique, au-delà des quelques expériences qui peuvent être ici et là sur le terrain ?
Alors, ça dépend si vous me le demandez pour l'époque ou pour aujourd'hui. Alors, d'abord, la société a des bases.
On va aller sur aujourd'hui maintenant.
Oui, la société a des bases. On voit que les bases de la société, craquent de toutes parts, que ce soit en France et dans le reste du monde. Je vais rappeler une étude qui a été menée avec un projet qui s'appelait Génération Quoi, qui a été menée sur 230 000 jeunes de 18 à 35 ans. 99% de cette jeunesse considère que la classe politique est corrompue et qu'on ne peut pas lui faire confiance. 87% pensent que les médias de masse mentent et 62% rejettent le capitalisme et sont prêts à une révolte violente ou à une de grande ampleur. heures. Hein, et c'est une étude qui a été menée à l'échelle européenne. Donc voilà, et le résultat des élections nous montre bien que on est dans un système qui est à bout de souffle et qui joue là sans doute sa dernière carte pour essayer encore d'avoir d'avoir le consentement de la population. Mais plus personne ne croit dans les... ou très peu de gens continuent de croire un peu dans les élections. On est là à voter contre. En fonction de sondages, il n'y a plus aucune adhésion au monde politique, un rejet massif des institutions. C'est pas étonnant si le slogan « Tout le monde déteste la police » était vraiment le slogan des lois, des manifestations contre la loi travail. C'est-à-dire c'était « Le monde ou rien », les deux slogans, « Le monde ou rien » et « Tout le monde déteste la police ». Donc, la société quand même tremble comme elle a tremblé, tremble sur ses bases comme elle a tremblé à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Donc, il y a plusieurs, au sein, disons, du mouvement aujourd'hui, des mouvements anti-autoritaires, il y a plusieurs perspectives qui sont tracées. D'un côté, c'est celle que propose le comité invisible, qui est... la création de réseaux qui vont de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes
d'où j'allais vous parler justement
au Chiapas, à Tarnac, de créer dans les interstices du pouvoir des rencontres. Mais il y a aussi, et on le voit marcher, la grève générale en Guyane, qui à plusieurs reprises marche, même si qui correspond, disons, à des méthodes de lutte qui sont plus traditionnelles et qui appartiennent à des gens qui sont dans le monde du travail.
Donc cette pensée-là, elle est prégnante. Elle existe, elle est prégnante. C'est pas exprimé par je ne sais quel renversement, mais vous la sentez prégnante et forte dans la société d'aujourd'hui.
La pensée libertaire et anti-autoritaire, disons, en étant assez inclusif quand je la définis comme ça, elle est diffuse et à mon avis elle imprime très fortement dans la jeunesse et plus largement.
Vous évoquez justement l'affaire de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. On va écouter un sujet de la télévision justement qui nous dit un certain nombre de choses intéressantes.
Ces personnes, vous ne verrez pas leur visage pour des raisons de sécurité, disent-elles. Ils se sont surnommés les occupants et sont 150, peut-être 200. À l'aide de branchages et de tranchées, ils tentent de bloquer l'immense projet d'aéroport international de Nantes, un investissement de plus de 600 millions d'euros soutenu par le gouvernement. La plupart des occupants ne sont pas de la région. Ils se revendiquent anarchistes, anticapitalistes ou décroissants. Ils se sont installés dans des fermes aux alentours dont les habitants ont été expropriés pour le futur chantier.
On fait de la cuisine de manière collective pour les 30, 40, 50 personnes qui passent ici. On stocke du matériel. Il y a des gens qui peuvent dormir dans les différentes caravanes qui sont tout autour. On a installé également un énorme dortoir là-haut. Quand on lutte contre cet aéroport, on lutte aussi contre le projet de monde qui va avec.
Ici, ils vivent en quasi-autonomie, des légumes cultivés ou offerts par les fermiers des alentours. Tout est collectif. Le pain est même fait sur place.
Voilà, zadistes, antifascistes, altermondialistes, aujourd'hui dans les médias, notamment le terme anarchiste, tout comme celui de liberté, recouvre parfois des réalités, des expériences très différentes. Quelles leçons vous tirez de ce combat dit zone à défendre, comme celui de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, est-ce qu'on vient d'entendre?
Alors d'abord, moi j'aime bien plutôt, vous savez, il y a une théorie qui est la théorie des TAS, zone autonome temporaire, qui a été définie par Hakim Bey, qui est un penseur anarchiste très influent aujourd'hui. Et je trouve que plutôt qu'une zone à défendre, aujourd'hui ce serait plutôt une manière de, il faudrait mieux dire que c'est une zone autonome définitive et se poser la question en ces termes. Ces zones autonomes définitives, elles correspondent historiquement, elles s'inscrivent dans ce qui se faisait au moment du Larzac et plus loin au début du 19e siècle, comme c'est raconté au début du 20e siècle, fin du 19e, comme c'est raconté dans le documentaire sur l'histoire de l'anarchisme, à ce qu'on appelait les grandes colonies libertaires, qui s'étaient faites d'ailleurs en France, mais aussi en Amérique latine. C'est un endroit effectivement d'expérimentation concrètement d'autres relations, d'autres d'une autre vie ou plutôt de revivre ici en créant des relations, et des relations internationales. La ZAD n'est pas refermée sur elle-même. Elle est en lien avec des organisations et des mouvements en Italie, je vous le dis, avec Bure, les mouvements anti-nucléaires, avec le Chiapas, avec... Donc, il y a une... Ce sont des réseaux qui se créent, une sorte de contre ou d'autre maillage qui est différent de celui qu'on a l'habitude de voir, disons, sur une carte routière. Je voulais juste quand même ajouter quelque chose par rapport au 1er mai, la date, la dernière date qui n'est pas racontée dans le documentaire et que je pense qui est très importante, c'est la date du 1er mai de l'année dernière.
Pourquoi ?
2016. Parce que pour la première fois, d'abord, il y a eu un dispositif de gestion des foules qui a été très particulier. On avait vu dans les manifestations contre la loi travail que les Black Blocs ou le cortège de tête, disons les casseurs ou les anarchistes ou les autonomes qui d'habitude étaient à la fin des manifestations, avaient tendance à monter en haut des manifestations et à créer l'affrontement dès le début. Et au 1er mai l'année dernière, qui est une fête où ne se retrouvent pas que les autonomes, mais vraiment où tout le monde vient faire ses revendications. Le cortège de tête a été nassé, et dans cette nasse, donc cette nouvelle technique de gestion de foule, se sont retrouvés les autonomes, Black Bloc, le cortège de tête, ceux qui ont des cagoules noires, mais se sont retrouvés aussi... des syndiqués d'une génération plus ancienne, des petits vieux. Bon, moi, par exemple, j'y étais avec ma fille. Voilà. Ouais.
Et, c'est amusant que vous parliez des petits vieux et que vous parliez de vous, parce que c'est complètement décalage, vous êtes jeune.
Ah oui. Donc moi j'y étais avec ma fille de 6 ans. Et ce qui a été incroyable, c'est que dans cette nasse, donc pendant 2 heures, la police a essayé d'écarter ce cortège de tête du reste de la manifestation. Mais enfin, on était peut-être 2000. S'est créé dans cette interstice-là une rencontre. Les gens se sont mis à se parler et des gens qui croyaient que les casseurs étaient des casseurs se sont rendus compte de ce qui se passait dans le cortège de tête. Des syndiqués ont pris conscience que de la convergence de leur combat. Et donc, ce 1er mai 2016, il a été important, je pense, à deux titres en France. C'est que, d'un côté, et ça a été la première fois que, à cette échelle-là, une gestion des émeutes, disons, a été mise en place en essayant de contenir et de nasser un aussi gros cortège, qui après va être produit dans la manifestation autour de l'arsenal de la Bastille, qui vide la manifestation de son sens, mais aussi parce que elle a créé des rapprochements qui ont amplifié les manifestations sur la travail et créé des solidarités nouvelles.
Merci infiniment, Tancred Ramonet. Votre documentaire Ni Dieu ni Maître comprend, je le rappelle, deux épisodes, hein, 1840 et 1914, et 1911-1945. Il n'y en a pas un troisième?
Je travaille sur le troisième.
Ah, bah voilà, hein, de la libération jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Bon, ça, il sera prêt quoi, dans 6 mois, un an? À peu près.
Je sais pas.
Vous savez pas. Bon, on verra bien.
Oui.
Merci en tout cas. Au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire du 1er mai du mouvement anarchiste, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la présidentielle de 1995, probablement la plus violente de toutes les campagnes présidentielles en France.